Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Notre invité cette semaine est un écrivain qui échappe à toutes les étiquettes. Poète, nouvelliste, essayiste, auteur pour la jeunesse et auteur de polar, Jérôme Leroy est un romancier français qui aime brouiller les pistes et mêler les genres. Héritier des Hussards, mouvement littéraire des années 60 caractérisé par le goût du style, il sait aussi se colter au réel le plus brutal, comme en témoigne Le Bloc, une des premières fictions qui racontait de l'intérieur le Front National. Aujourd'hui, Jérôme Leroy publie un nouveau roman en équilibre entre deux mondes, celui de la littérature et celui de l'espionnage, avec en fond l'anticipation d'une société sur le point de basculer dans une autre dimension. Le livre paru aux éditions de la Table Ronde s'intitule « Un peu tard dans la saison », un titre énigmatique pour un roman apocalyptique ou utopique, c'est selon, dont nous parlons tout de suite avec l'auteur. Bonjour Jérôme Leroy.
Bonjour.
Votre nouveau roman met en scène deux personnages, un écrivain et une jeune femme des services secrets. Ils ne se connaissent pas, vont se rencontrer uniquement dans les dernières pages. Et ils incarnent deux pôles opposés de notre société. D'un côté, la littérature, la poésie, les voyages. Et de l'autre, la sécurité, les armes, la radicalité. Que représentent pour vous ces deux personnages ? Est-ce qu'ils incarnent la fin d'un monde au sens propre et figuré de l'expression?
Oui, exactement. C'est-à-dire qu'ils incarnent deux pulsions contradictoires qui sont à l'œuvre dans la société. La première qui est incarnée par l'écrivain, qui serait celle du désir de fuite, d'effacement, de ce qui dans le roman est appelé l'éclipse. Il n'est pas tout seul à ressentir ça dans le roman. C'est un désir effectivement de ne plus continuer à obéir à des horaires, de ne plus continuer à vivre dans un monde avec des rapports sociaux de plus en plus violents, de ne plus continuer à vivre dans un monde où manifestement on est dans une phase d'épuisement de notre environnement et en même temps une phase extrêmement violente et ça se manifeste de manière violente. Et donc il y a une grande aspiration à la douceur, au calme, à la tranquillité. Lui, il incarne plutôt ça. Et en face, comme dans tous les systèmes qui se sentent extrêmement menacés, il y a des gens qui, par idéologie ou parce que c'est leur métier, sont absolument prêts à tout pour garder sous contrôle une population qui est de plus en plus imprévisible. Et eh bien, cette tendance est incarnée par cette jeune femme, capitaine des services, il n'y a même pas besoin de dire lesquels, secrets, etc., ce que vous voulez, qui incarne d'ailleurs d'une certaine manière aussi cette idéologie antiterroriste qui est à l'œuvre et qui est une idéologie de la surveillance généralisée et donc du contrôle. Et donc, effectivement, ces deux-là, bon, s'ils se connaissent ou ne se connaissent pas, ou pourquoi l'un surveille particulièrement l'autre, parce que l'écrivain en question n'a rien de... Il est comme tant d'autres soumis à ce désir de disparition, pourquoi lui est-il plus particulièrement surveillé par cette jeune femme? C'est aussi l'objet du roman.
On le saura un peu plus tard. Donc le roman est construit avec l'alternance de leur point de vue, de leur voix. Agnès raconte comment elle espionne l'écrivain. Effectivement, au début, on ne sait pas pourquoi. Et l'auteur, Guillaume, qui lui ne sait pas du tout qu'il est surveillé, continue sa vie d'auteur, de professeur, et il se remémore à la fois sa jeunesse, ses amours, ses lectures préférées, ses escales. Il flâne, elle le piste. Est-ce que c'est aussi la traque du chasseur et de sa proie qui vous intéresse?
Oui, c'est-à-dire que c'est j'ai quelque chose de récurrent dans mes romans qui est l'idée de l'ange, qui peut être le mauvais ange c'est-à-dire celui qui vous escorte pour mieux vous détruire, pour vous faire passer du côté obscur de la force, ou simplement vous détruire, si je puis dire. Et puis l'ange gardien, qui est là, au contraire, pour amortir les chocs devant vous. J'ai un roman qui s'appelle L'ange gardien, justement, qui également met en scène quelqu'un des, la structure est inversée, mais quelqu'un des, un homme des services secrets qui protège une jeune ministre noire, sans qu'elle le sache. Et là, on est dans une situation inverse. Mais cette idée de chasse, ou en tout cas de d'espionnage, de voilà, de cette impression de parfois qu'on puisse avoir sans être nécessairement paranoïaque d'être suivi, ou en tout cas d'être voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Oui.
Et alors qu'a priori rien ne semble les unir, il s'avère finalement qu'ils ont un point commun, l'invisibilité. Elle, évidemment, par son métier, puisqu'elle est constamment dans la dissimulation, et lui. Vous le disiez à l'instant, Jérôme Leroy, par lassitude, il semble de plus en plus intéressé par l'idée de disparaître dans la nature. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul, car vous imaginez, Jérôme Leroy, que la France est frappée par une éclipse, ce phénomène où des milliers de gens décident du jour au lendemain de tout abandonner, de quitter leur vie pour une autre. D'où vient cette idée ?
Alors, je pense que cette idée, elle est assez répandue aujourd'hui chez des gens que vous pouvez croiser comme ça. Enfin, c'est un sentiment... Alors, je pense qu'il y a que le roman qui peut capter ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études en tant que telles qui ont été faites là-dessus, mais un sentiment général d'une forme de lassitude qui fait qu'effectivement, on a envie de se retrouver dans les marges. C'est-à-dire, on n'a plus envie forcément d'entrer en lutte ouverte contre le système. Il y a des personnages dans le roman qui le font encore, qui croient encore à la possibilité d'une lutte ouverte contre le système, et puis il y en a d'autres qui sont dans l'éclipse. Et ce qui est appelé l'éclipse dans le roman, en fait, c'est quand ces services, et quand le gouvernement et ses services identifient ce phénomène qui est bien plus inquiétant que tout ce que puisse imaginer un gouvernement comme menace, puisqu'il n'y a pas de chef d'orchestre qui décide qu'il va falloir tout arrêter et puis faire disparaître dire aux gens de s'en aller. Il n'y a pas de chef d'orchestre, il n'y a pas de, ça peut toucher n'importe qui. Dans le roman, ça touche, pas ça touche un ministre, qui, voilà, ça touche, mais ça peut toucher une mère de famille, ça peut toucher,
un prof,
ça peut toucher, à peu près n'importe qui d'un seul coup, effectivement, semble avoir oublié qu'ils ont une famille, qu'ils ont des amis, qu'ils ont, etc., et s'en vont, ils racontent pas nécessairement très loin, d'ailleurs, mais recommence quelque chose à côté, comme dans un, c'est un moment, voilà, un moment où on a besoin de partir, qui est cette fois-ci pas simplement prendre un répit, mais qui est vraiment le désir de ne plus revenir, de vivre à côté. Et cette invisibilité, ce désir d'invisibilité, moi, il m'est apparu de plus en plus, c'est quelque chose que j'ai ressenti, que peut-être d'autres ont ressenti, qui m'est apparu quand je me suis aperçu, il y a quelques années déjà, qu'en fait, on est dans une société où il devenait très compliqué d'être injoignable. Voilà, c'est la pulsion de départ, d'être injoignable. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour être injoignable ? Le roman pose aussi la
pour
question presque...
au téléphone portable,
à l'ordinateur, aux réseaux sociaux, au GPS, à la vidéosurveillance. Et tandis que l'invisibilité, et on revient à ce qu'on disait au début, l'invisibilité d'Agnès, elle est tout à fait différente. C'est une invisibilité professionnelle qui est celle de la surveillance aujourd'hui, qui est à la fois... presque universel, mais invisible. Voilà.
Alors juste une petite parenthèse pour que ce soit clair pour nos auditeurs, cette éclipse dont vous nous parlez, c'est un peu de l'anticipation, ça n'existe pas encore.
En théorie, d'après le roman, aussi,
elle a
commencé vers 2014-2015.
Mais ça s'appuie par exemple sur des chiffres réels,
non,
Jérôme
Leroy ? Non, mais ça je laisse le lecteur deviner, ouais. si j'ai des sources.
Ouais.
Ou si c'est ma pure imagination, mais dans le roman en tout cas, on explique que le phénomène a posteriori a été détecté vers 2014-2015, mais que c'est au cours de l'année 2015 que dans les services, avec les personnes concernées dans les gouvernements, on commence à appeler ça, parce que ça n'a pas lieu qu'en France, on commence à appeler ça l'éclipse, faute de mieux, c'est-à-dire ce phénomène de désir de disparition qui touche une partie importante de la population. Et encore une fois, c'est ce que peut redouter de pire un gouvernement. Il y a une conversation entre Agnès et son supérieur à un moment donné. C'est qu'en gros, on peut accepter de lutter contre un ennemi invisible dans le terrorisme qui met frontalement en danger le système. On peut arriver à trouver des têtes, des responsables, etc. Là, quand c'est un mouvement spontané qui touche l'ensemble de la population, c'est ce qui peut...
Et individuel aussi.
Et individuel, mais qui touche énormément de monde, sans concertation, c'est ce qu'un système politique, n'importe lequel, peut redouter le plus.
Donc forcément, Jérôme Leroy, je suis obligée de vous poser la question, est-ce que vous aussi, vous avez eu ou vous avez cette tentation de disparaître ?
Oui, bien entendu. Et en même temps, l'écriture, et c'est pas une nouveauté ce que je vais dire, sert aussi à exorciser, c'est-à-dire sert à nommer les pulsions qui peuvent vous habiter. Et en les nommant, à la fin, ça va mieux. C'est-à-dire que je peux arriver, moi, à voir les choses plus sereinement. D'une certaine manière, je transmets mon inquiétude, mon incertitude au lecteur. Paradoxalement, après ce roman, j'ai peut-être moins envie de disparaître parce que j'ai réussi à raconter une histoire de ce genre.
D'ailleurs, le roman s'articule avant et après les premiers attentats terroristes qui ont frappé la France, puis l'Europe, depuis janvier 2015. Est-ce que ça a été aussi un catalyseur pour vous, une espèce de signe d'une apocalypse à venir?
Non, mais ça a été en tout cas un signe de plus, d'une hyper-violence. Puis c'est une date, finalement, qui permet, moi aussi, de structurer le roman entre un avant et un après, ce que j'appelle dans la saison des massacres, parce que la violence terroriste dans son caractère ultra spectaculaire est finalement l'expression ultime d'une violence latente ou d'une insécurité latente dans la société, qui est aussi bien les rapports dans le monde du travail, par exemple. Je dis pas que c'est de la même nature, je dis simplement qu'il y a finalement quelque chose d'atrocement logique à ce qu'on en arrive là dans nos types de sociétés.
Et qu'on ait envie d'en échapper,
pas spécialement pour fuir les attentats, mais pour fuir une société qui en arrive à ce type d'événement.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Jérôme Leroy, avec qui nous parlons de ce nouveau roman un peu tard dans la saison. On l'a évoqué dans la première partie de l'émission, vous mettez en scène un personnage écrivain, Guillaume Trimbert, qui possède, Jérôme Leroy, beaucoup de vos caractéristiques. Professeur, écrivain, poète, auteur de polar, il est même en train d'écrire un livre qui pourrait s'intituler « Un peu tard dans la saison », donc comme le vôtre. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné ou prêté que vous n'avez pas ?
Je pense que quand même je suis moins velléitaire que lui. Comme souvent avec mes personnages, je pratique une forme d'alter-fiction. Pas d'autofiction, mais d'alter-fiction, c'est-à-dire que je n'hésite pas à prendre des traits de mon caractère et à les grossir, sans aller jusqu'à la caricature, mais à les grossir, et puis surtout à mettre mon personnage dans des situations que je n'ai, moi, personnellement, pas vécues. Donc c'est un mélange entre, voilà, c'est ce que j'appelle, faute de mieux, l'alter-fiction par opposition à l'autofiction.
Il a quand même quelque chose, lui, de désabusé. Par exemple, page 82, voilà ce qu'il dit. Je ne suis plus certain d'avoir envie d'écrire. Le feu sacré s'en est allé. Des poèmes, peut-être encore. Pour le reste, je ne vois plus l'utilité de rajouter des livres aux livres. S'ils sont bons, on ne les voit pas dans une telle prolifération. Et s'ils sont mauvais, cela devient franchement obscène. Vous continuez de publier, donc vous n'êtes pas complètement désespéré, Jérôme Leroy.
Ben voilà, c'est-à-dire que ça, par exemple, c'est typiquement l'extrait que vous venez de dire, c'est typiquement ce que je peux penser dans un moment de déprime, par exemple, ou un moment de baisse de tension, on va dire, qui fait que, mais effectivement, je pense que si là, peut-être, vous me faites toucher, sans que j'y ai pensé forcément, la différence fondamentale qu'il y a entre Trimbert et moi, c'est que le feu sacré, il se trouve que moi, je pense l'avoir encore, c'est-à-dire que j'ai encore vraiment besoin de raconter des histoires ou d'écrire des poèmes.
Donc, vous avez de l'espoir.
Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'au moins là, c'est-à-dire qu'au moins, je pense que, au moins sur ce plan-là, oui, je pense que profondément, il n'y aura jamais trop de livres, finalement. C'est peut-être pas ce que vous pensez tous les jours, mais il n'y aura jamais trop de livres. C'est-à-dire que c'est encore le meilleur moyen que j'ai trouvé, moi, pour me consoler et par ceux que j'écris, pour exorciser, me consoler et par ceux que j'écris et par certains que je peux lire.
Agnès, en revanche, cette jeune femme qu'on a déjà évoquée, des services secrets ou des services tout court, elle, il semblerait qu'elle connaisse même pas le sens du mot espoir, parce que elle agit au nom des ordres qui lui sont donnés. Elle va même des fois un peu plus loin, puisqu'elle tue sans que ce soit forcément nécessaire. Mais ce que j'aimerais savoir avec vous, Jérôme Leroy, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une jeune femme de 32 ans, exactement, soit devenue une espèce de mécanique.
Moi, je pense que je vais pas tout dévoiler. Je pense que c'est lié à son histoire familiale déjà pour commencer. Et puis, c'est une grande professionnelle, Agnès, tout simplement. C'est-à-dire que, comme d'autres, sont très douées pour faire de la peinture ou pour enseigner à des enfants. Elle est très douée pour espionner, tuer. Et voilà, il en faut.
C'est très cynique, ça.
Oui, mais le problème, c'est que les gens qui aiment bien leur métier le font bien. Je pense qu'elle aime ce qu'elle fait.
Même les tueurs à gages.
Même les tueurs à gages. Surtout peut-être les tueurs à gages. Ça réclame beaucoup de compétences, de sang-froid et de... Alors en même temps, si on regarde ce personnage d'un peu plus près, on s'aperçoit aussi qu'il y a une forte dimension de désespoir chez elle.
Malgré oui, bien
tout,
sûr.
De haine de soi. Et donc, c'est pas ce qui explique une excuse. Son travail, mais enfin elle fait partie de, hélas, de créatures que l'on voit fréquemment, même dans notre histoire récente, de gens qui dont le métier est de servir d'exécuteur des basses œuvres à la raison d'État.
Alors là, on le comprend très bien avec ce que vous venez de dire, Jérôme Leroy. C'est un roman un peu singulier dans la mesure où il est sur un fil aussi, à la fois entre roman policier et roman d'introspection, avec une touche de catastrophisme. Est-ce que c'était difficile pour vous d'être sur cette corde raide, ou au contraire, c'était le défi de l'écriture?
Bah, moi, c'est ce que j'adore, c'est l'hybridation. En même temps, c'est même pas vrai. Je viens du roman noir. Non, j'ai fait du roman noir quand j'ai eu envie de faire du roman noir. Au sens large, je pense qu'un peu tard dans la saison serait un roman noir si je devais lui trouver une ultime classification, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est de pouvoir mêler une introspection, une vision presque modianesque de certains, de l'errance, et puis en même temps de jouer ou en tout cas d'utiliser les codes propres au roman noir, propres au thriller, et je crois que l'un n'empêche pas l'autre.
Est-ce qu'au final c'est un roman sur le choix? Le choix qu'on peut faire ou le choix qu'on n'a pas?
Si je prends le terme de choix, c'est un roman qui effectivement pose la question de savoir jusqu'où je vais pour accepter de vivre dans ce monde-là.
Qu'est-ce qui va nous retenir alors dans ce monde? La littérature, la poésie?
Alors, pour l'instant, la littérature et la poésie, mais ce qui peut nous retenir aussi, c'est, ou ne pas nous retenir, c'est l'idée que ce soit mieux après. Le roman est encadré au début et à la fin de deux passages qui, là pour le coup, se passe dans un futur à quelques dizaines d'années.
17 ans plus tard,
et ce sont apparemment ce qui s'est passé après cette espèce d'éclipse généralisée que finalement l'État n'a pas pu arrêter, les États n'ont pas pu arrêter, c'est que les gens ont commencé à recréer de manière plus spontanée une nouvelle société qui ressemblerait peut-être à celle de, pour les auditeurs qui se souviendraient de GB dans l'an 01 par exemple, c'est-à-dire ces sociétés un petit peu, ou ce qu'on appelle aujourd'hui des sociétés telles que pour les imaginer la décroissance, c'est-à-dire que c'est des sociétés, et je l'appelle la douceur,
oui.
Voilà. Et elle s'appelle
donc c'est un roman
la douceur. Alors en tout cas, il est encadré. Le fait d'avoir utilisé la douceur à la fin et au début du roman, avec quelques aperçus sur ce que pourrait être une société d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, cette société, en mettant ça au début et à la fin du roman, ça me permet de remettre en perspective notre présent. Parce que très souvent, on me dit « Ah mais c'est un roman même qui est légèrement d'anticipation ». Non, tout ce que je décris dans le présent de Trimbert et d'Agnès se passe vers 2015, 2016, 2017, 2018 si vous voulez, mais bon, c'est pas l'anticipation puisqu'on y parle d'hyperterrorisme, on y parle de mouvement social, on y parle de crise écologique, on y parle de voilà. Et donc c'est finalement ce qu'on vit, sauf que ça nous semble dystopique comme on dit aujourd'hui, ça nous semble cauchemardesque et c'est pourtant ce qu'on vit, mais ça nous semble cauchemardesque parce que finalement le roman avec le début et la fin, avec le prologue et puis l'épilogue, on ne peut pas s'empêcher de voir le roman à partir d'un futur proche qui, lui, est plutôt très heureux. Donc c'est un roman plein d'espoir, oui.
Et où nous verrons ce que sont devenus Agnès et Guillaume. Pour finir, quel est le sens du titre, Jérôme Leroy? Comment faut-il entendre un peu tard dans la saison?
Eh ben parce que il est déjà maintenant un peu tard dans la saison, c'est-à-dire qu'un peu tard dans la saison pour croire qu'on va pouvoir continuer à vivre dans ce monde-là si rien ne change vraiment.
Donc il faut changer, tout de suite.
Oui, enfin le plus vite possible. Mais en douceur.
Toujours en douceur. Merci beaucoup Jérôme Leroy.
Je vous remercie.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Un peu tard dans la saison, qui a paru donc aux éditions de la Table Ronde. Et je signale également la réédition de deux de vos romans précédents, La Minute prescrite pour l'assaut et Comme un fauteuil Voltaire dans une bibliothèque en ruine. tout un programme de titres qui ont paru dans La Petite Vermillon, toujours aux éditions de La Table Ronde. Merci beaucoup.
Merci.
Géopolitique, le débat.